Et ce matin, en fait, on va voir justement le témoignage de Jean-Baptiste. Et lui ici fait une déclaration très claire, très forte, très puissante par rapport à ce qui s'en vient. Et ce matin, on va justement tourner nos regards vers lui pour nous aider ce matin à continuer dans cet évangile de Jean et qu'est-ce que l'évangile est en train de nous montrer sur Jésus-Christ. Avant d'aller à l'évangile de Jean, je veux faire un lien avec au mois d'octobre, quand on a fait un jeûne et prière comme on fait ce matin, où on le dimanche matin, on se concentre aussi sur ce thème, on se tourne vers Dieu. Et en octobre, c'était que Dieu soit tout en tous. Et c'était Éphésiens 3, 19 là, que nous montrait que Paul priait pour que nous, les croyants, les chrétiens, on puisse être rempli de Dieu jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et là, je vous avais donné une petite illustration que j'ai ramenée ce matin. Et voilà. Alors, je suis fort, là, c'est parce que c'est pesant. Regardez bien. Ah, voilà. Eh, boy. Hein? Ouh! Alors, ça ici, c'est une bouteille qui est pleine. Hein? Elle est pleine d'eau. Puis, là, je vais la mettre sur la table, juste pour que je puisse vous parler librement, là. Mais cette belle bouteille d'eau représentait, comme une illustration, la plénitude de Dieu, ou la grandeur de Dieu, et on avait aussi mis l'emphase sur ce que Paul dit dans Éphésiens 3, 19, sur l'amour de Christ, que l'amour de Christ puisse habiter nos cœurs, nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puis là, j'avais emmené avec moi, je vais la trouver, qui nous sommes. Et là, j'avais montré, vous vous souvenez, hein? Il y en a qui étaient là. Tu n'es sûrement pas seul, là. Il y en a beaucoup qui étaient là. J'en avais au-dessus de 200 petites bouteilles comme celle-ci. Et là, le défi, c'était comment est-ce qu'il est Dieu, sa plénitude et la grandeur de son amour. Puis on comprend, là, c'est une illustration, hein? Parce que l'océan n'est pas assez grand pour essayer de nous expliquer la grandeur de son amour. Mais Paul parle de la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour. Alors, l'illustration qui est quand même bonne, de dire comment est-ce que autant peut rentrer dans si peu? Comment est-ce que je peux avoir toute la plénitude de Dieu dans si peu? Il y a à peu près 8 gouttes, 10 gouttes d'eau dans cette petite bouteille-là. Et vous vous souvenez, c'était quoi la réponse? Rappelez-vous, et là je vous avais invité, et la seule façon, c'était de permettre à ce que la bouteille aille à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, il n'y a plus de problème. Êtes-vous d'accord? Donc, il faut aller en Dieu pour pouvoir goûter à la profondeur de son amour, à la hauteur de son amour, à la grandeur de son amour. Et c'est seulement en lui qu'on peut y arriver. Maintenant, Jean nous donne une autre perspective, qui est la suivante. La parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, elle s'est faite chair. La parole est Dieu. Jésus s'est fait homme. Dieu fait homme. L'immensité de la grandeur de Dieu était présente dans la personne de Jésus. Comment est-ce possible? Contrairement à nous, pour que nous on soit remplis, il faut qu'on aille en Dieu. Il faut qu'on aille dans la bouteille. Mais ce que Jean est en train de dire, c'est que la bouteille est devenue homme. Et qu'en Christ, il y a la plénitude de la divinité de Dieu. Parce que Christ est Dieu. Christ n'est pas une partie de Dieu. Christ n'est pas une portion de Dieu. Christ est Dieu. Et là, Jean, l'apôtre Jean, va justement rendre témoignage de cette vérité. Et Jean-Baptiste, naturellement, va être le premier qui va introduire la personne de Jésus. Et là, on va prier ensemble avant d'aller au texte biblique. Seigneur Jésus, il y a des vérités dans ta parole qui nous surpassent, qui nous dépassent, qui vont plus loin que notre compréhension humaine. Et parfois, en essayant de comprendre, on arrive à des cul-de-sac. On est totalement pris au piège dans un sens. Parce qu'une telle vérité aussi, Seigneur, même si elle est révélée, même si elle est écrite, même si elle est dite et même si elle est démontrée, dépasse notre capacité humaine d'essayer de comprendre comment Dieu, l'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu pouvait être représentée quand tu es venu en tant qu'homme et que tu étais un homme à 100%, mais pas juste un homme à 100%, mais tu étais aussi Dieu à 100%. Et tu as toujours été en communion intime avec ton Père à 100%. Ô Seigneur Jésus, ce matin, ouvre nos yeux. Toi, Jésus, qui es la parole, qui était avec Dieu, qui est Dieu et qui a été fait chair. Et toi, Seigneur Jésus, qui s'est manifesté aussi comme étant la lumière du monde. Ce matin, nous te demandons de venir nous éclairer. Éclairer notre entendement, éclairer nos cœurs, éclairer notre vie. Afin, Seigneur, que nous puissions être en communion intime avec toi et que tout ce que tu veux faire, tu puisses le faire dans notre vie. On te le demande, Jésus, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, ce matin, on va regarder Jean 1, 6 à 28. Alors, j'ai le texte biblique pour vous aider. Si vous voulez le suivre dans vos Bibles, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez suivre avec moi, parfois, j'ai fait des petites corrections pour essayer de mieux représenter le sens qui est donné ici. Et lorsque ce n'est pas en italique, c'est justement un petit, une explication, dans le fond, que j'ai donnée. Alors, peut-être que vous ne l'aurez pas dans votre version, mais si vous suivez, ça va bien aller aussi. Et vous allez voir. Donc, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle, la lumière, est venue chez les siens, sa propre maison, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le droit ou le privilège de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et ici, ça n'a rien à voir justement avec la semence d'Abraham ou sa descendance, mais de Dieu. Verset 14. La parole a été faite chair. Alors là, il revient au thème qu'il avait donné dans les cinq premiers versets, où là, on voit que c'était la lumière. Là, il revient à la parole. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, c'est-à-dire de bonté et de vérité, c'est-à-dire de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ici, c'est l'idée de sa bonté qui a été manifestée à Moïse dans Exode 33-34, où justement Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Et là, Dieu lui a montré sa miséricorde, sa bonté. Alors, c'est ici le mot « kessed » qui est dans l'Ancien Testament. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, c'est-à-dire la gloire de Dieu lui-même, sa propre gloire. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, c'est-à-dire, si on pourrait le mettre de la façon suivante, ça serait correct, une grâce après l'autre. Ou encore la grâce nouvelle qui remplace l'autre qui était plus ancienne, en faisant référence à Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire qui vit dans l'intimité du Père, lui l'a fait connaître, ou il l'a révélé, ou encore il l'a raconté, ou encore il l'a exposé. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, donc il y a une spécification ici, probablement le Sanhédrin ou des personnes du Sanhédrin. Alors, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Jean-Baptiste dit, ou confessa sans le nier, « Moi, je ne suis pas le Christ, c'est-à-dire le oint ou le Messie. » Alors, ils lui demandèrent, « Mais quoi donc? T'es-tu Élie d'abord? Est-ce que tu es... Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Alors ça, c'est tous des personnages qui, dans le fond, faisaient partie de l'eschatologie, c'est-à-dire les choses à venir et en rapport avec la venue du Messie. Verset 22. « Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. « Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu? » C'est-à-dire, selon quelle autorité le fais-tu et dans quel but le fais-tu? C'était ça ici qui était représenté, parce que là, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète dont Moïse a parlé, comment c'est que tu fais ça d'abord? Sous quelle autorité, dans quel but? Si tu n'es pas le Christ, ni le prophète. Alors, tous des personnages eschatologiques. Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. » Et là, on voit ici comment Jean garde la place qui lui a été donnée ou assignée par Dieu. Et là, il va jusqu'à dire, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Imaginez-vous, normalement, un esclave faisait ça. Un esclave était digne de faire cela vis-à-vis son maître. Et Jean-Baptiste dit, « Je suis même pas digne de faire ça vis-à-vis celui qui s'en vient. » Et là, ça précise que ça se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Maintenant, Jean-Baptiste, son identité. Qui est Jean-Baptiste? Et vous l'avez vu dans le texte, trois choses qui sont dites sur Jean. Premièrement, c'est un homme envoyé par Dieu. C'est important parce que tout comme Moïse avait été envoyé par Dieu, il fallait que Jean aussi, s'il puisse avoir une certaine crédibilité de dire ce qu'il avait à dire, il fallait aussi qu'il soit envoyé par Dieu. Et là donc, c'est précisé ici
qu'il est un homme envoyé par Dieu. Deuxièmement, ça dit qu'il est un témoin de la lumière, au verset 7 et 8. Donc, c'est important parce qu'encore là, il se distingue de la lumière. Il ne se compare pas à la lumière, mais il se distingue de elle en disant « Je suis un témoin de la lumière ». Et plus tard, il va préciser qu'il n'est pas la lumière. Lui-même, il n'est pas la lumière. Et ça, c'est très important parce que des gens auraient pu confondre. Et même ses disciples, à un moment donné, ont eu un débat par rapport à ça. Et c'est comme si là, il y avait une certaine discours ou compétition à savoir, bon, ben là, on fait-tu ce que Jésus fait ou on fait ce que toi, tu nous as dit de faire? Et même certains de ses disciples à Jean-Baptiste, finalement, vont devenir les disciples de Jésus. Et Jean s'en réjouit, Jean-Baptiste s'en réjouit de ce que, justement, ces gens-là vont suivre Jésus. Parce que lui, il sait qu'il est un témoin. Et le mot qui est là va aussi donner plus tard l'idée du martyr, parce que le mot qui est là renferme cette idée-là de martyr. Et on sait que Jean, il va perdre la tête, il va devenir justement un martyr pour avoir rendu témoignage à la lumière. Et finalement, et pas la moindre, c'est intéressant quand même que Jean-Baptiste s'identifie comme ceci, une voix qui crie dans le désert. Imaginez-vous. Jean dit, « Moi, je suis une voix qui crie dans le désert. » Et là, ici, il y a les versets 23 dans Jean. Ensuite, Matthieu 3, 1 dit, « Il prêchait dans le désert de Judée. » Marc 1, 4 dit, « Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » Donc là, on a un peu plus de détails sur cette voix-là qui criait dans le désert. Autrement dit, il ne faisait pas juste de crier dans le vide, là. Il y avait un contenu à ce qu'il était en train de dire, mais il faisait référence ici justement à ce qui était dit dans l'Ancien Testament, à la venue du Messie, qu'est-ce qui serait fait pour préparer le terrain. Et Luc 3, 7 à 18 est probablement le texte qui nous donne encore plus de contenu de ce que Jean-Baptiste disait en préparation de la venue de Jésus. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Et ici, plusieurs pensent que là, il s'adressait particulièrement aux chefs religieux, mais c'est assez rough là, comme parole. Il ne mâchait pas ses mots, comme on peut dire là, en bon québécois. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Reproduisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc? Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers. Alors, ceux qui collectaient les impôts pour être baptisés, ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous dans notre cas à nous? » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que ferons-nous? » Il leur dit, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre salaire. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ lui-même, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vin à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et là, ça finit avec ceci. Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortation. Maintenant, ce que Jean a dit qu'il n'était pas, il dit « Je ne suis pas la lumière » au verset 8 de l'Évangile de Jean, chapitre 1. Il a dit « Je ne suis pas le Christ ni le grand prophète que Moïse a parlé » dans les versets 20, 21 et 25. Et il a dit aussi « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de la sandale du Christ. » Alors, Jean avait une réputation, puis il avait une mission sur terre. Sa réputation, bien, voici ce que ses contemporains ont dit de lui. Premièrement, et là vous avez les références bibliques, mais son témoignage est vrai, même s'il n'a fait aucun miracle. Parce que Le texte est clair que Jean lui-même n'a pas fait de miracle, mais son témoignage est vrai. Beaucoup de gens vinrent à Jésus et disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait, plusieurs crurent en Jésus. Jean 10, 41-42. Aussi, en Matthieu 3 et 5, ça nous dit qu'il était un véritable prophète. Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et là, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce que la foule tenait Jean pour un véritable prophète. Et finalement, Jean était un homme juste et bon. Marc 6, 20. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Ce que Jésus a dit de lui, de Jean-Baptiste, ça c'est intéressant aussi. Deuxième partie. Alors, Jésus a dit que Jean a rendu témoignage à la vérité, dans Jean 5, 33. Vous avez envoyé une commission d'enquête des prêtres et des lévites, selon le chapitre 1 et verset 19, vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Ensuite, Jean 5, 35, Jésus a dit que Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Dans Matthieu 11, 11, Jésus va dire que Jean-Baptiste a été le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Et regardez le verset, je vais vous le lire. « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux, ou de Dieu, dans Luc 7, 28, ce qui est la même chose, est plus grand que Jean-Baptiste. » Alors, Jean, pour Jésus, était quand même quelqu'un de très important. Et on va voir aussi dans Matthieu 11, 18 et Luc 7, 33, que Jésus dit que Jean est venu, il ne mangeait, en parlant de pas manger de pain, ni ne buvait de vin, et l'on dit qu'il avait un démon. Les chefs religieux ont dit que Jean-Baptiste avait un démon. Et en fait, ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est que Jean-Baptiste était un véritable nazirien, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le vœu de Naziria, qui était justement de ne pas toucher de vin ou d'aucun produit de la vigne, qui était un des éléments importants de ce vœu. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir comment Jésus voyait Jean-Baptiste. Mais sa mission, elle était simple, mais très importante, absolument essentielle. C'était de rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Au verset 7, chapitre 1. Et là, il dit au verset 15, « Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et ça, c'est comme, d'un point de vue simplement chronologique, c'est faux. C'est faux parce que Jean a commencé son ministère avant lui, Jean-Baptiste. C'est faux aussi parce que Jean-Baptiste est né avant Jésus, 6 mois avant Jésus. Donc, comment est-ce qu'il peut dire que celui qui vient après moi était là avant moi? Donc, ici, il ne parle pas dans un terme chronologique, mais il parle d'une priorité ou d'une primauté qui était absolue. Parce que Jésus, il est Dieu. Et donc, ici encore, Jean est en train de mettre l'emphase sur cette vérité que Jésus est Dieu. Et donc, oui, il était là avant lui. Et oui, il est beaucoup plus important que lui, parce que lui est seulement une voix qui crie dans le désert. Et voici ce qu'il dit, c'est « Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe au verset 23. » Et en fait, Jean baptiste est le premier anabaptiste, parce qu'il dit « Moi, je baptise dans l'eau. » Et les anabaptistes ont eu la réputation d'être ceux qui baptisaient les adultes dans l'eau. Alors, si on dirait « Oui, Jean était le premier anabaptiste dans ce sens-là », du moins de l'ère chrétienne, parce que c'est lui qui a introduit Jésus, et il a même baptisé Jésus dans l'eau, comme on voit ailleurs dans les Écritures, dans les Évangiles. Alors, Jean était là pour rendre témoignage à la lumière. Et ça, c'est vraiment important. Et ici, dans Luc 1, 16 à 17, ça, c'est l'ange, en fait, qui s'adresse au père de Jean-Baptiste, qui s'appelait Zacharie, qui lui-même, Zacharie, était un sacrificateur. Et quand il a su que sa femme allait être enceinte, et en passant, il priait là-dessus depuis longtemps, mais sa femme semblait être stérile et elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et là, ils étaient rendus un peu comme en dehors de la zone possible d'avoir des enfants. Et là, l'ange vient puis il dit ceci en parlant de Jean-Baptiste. « Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des juges et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, Jean faisait la joie naturellement de ses parents parce que c'était une réponse à leur prière. Et il avait toute une mission à accomplir avant même d'être né. Maintenant, dans l'Évangile de Jean, la portion qu'on a lue ce matin, 6 à 28, il y a au moins 12 caractéristiques qui est données de Jésus, de la lumière. Parce que la question qu'on se pose, c'est « Jésus, qui es-tu? » Et quelle différence ça fait dans ma vie de le découvrir? Et c'est ça qu'on veut essayer de aussi réfléchir, c'est sur la personne de Jésus et la révélation qu'il représente. La première chose qu'on voit, ça c'est la deuxième, on va retourner en arrière. La première chose qu'on voit, c'est que Jésus, qui est la lumière, c'est la véritable lumière. Ce qui veut dire la lumière authentique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il est la lumière authentique. Alors, ici, on voit qu'il y a comme une comparaison qui est faite entre Moïse, qui a emmené la loi, et Jésus qui a emmené la grâce et la vérité, parce qu'il était la véritable lumière. Et ce qu'il est en train de communiquer à travers ce texte et ces jeux de mots et ces expressions, où là ici qu'il est la véritable lumière, c'est que tout bon juif pouvait dire, par exemple, la loi de Moïse, elle procure la lumière. Et les livres de sagesse, comme les proverbes, les psaumes, et ainsi de suite, et les prophètes, procurent de la lumière à ceux qui les lisent. Donc, ces livres-là nous donnent de la lumière. C'est comme s'ils nous aident à voir, à comprendre, à avoir une lumière pour nous aider justement à nous éclairer dans notre compréhension de la vie, notre compréhension de tous les jours, et notre compréhension de qui est Dieu. Tandis que Jésus, lui, il est la lumière. Voyez-vous un peu la différence? C'est un peu. Attendez un petit peu. Ouais, j'ai une petite. Je l'ai avec moi. Ça ici, comme vous voyez, ça procure de la lumière. Hein? Donc, avec une petite lampe comme celle-ci, je peux avoir un peu de lumière quand je suis dans les ténèbres. Et là, elle va rayonner selon la force qu'elle a. Et elle en a un petit peu, mais elle n'en a pas beaucoup. Mais elle procure la lumière. Tandis que Jésus, lui, il est la lumière. Et ce qu'il est en train de communiquer, c'est que Dieu, à travers Moïse et la loi, a donné à son peuple une lumière. Il a donné une certaine lumière, une portion de sa lumière, mais pas la lumière. Tandis que là, Jésus, lui, il est la lumière. Il est, autrement dit, la lumière ultime. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Il est l'aspect de l'accumulation de la révélation de Dieu. Comme la création, par la création, on peut avoir une portion de la lumière sur qui est Dieu. On a une portion de la révélation de Dieu. Donc, en regardant la création, on peut voir certaines choses sur la personne de Dieu, le caractère de Dieu, la grandeur de Dieu. Et si on regarde les écrits de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les psaumes, la sagesse, encore là, on a une certaine portion de la révélation de Dieu. Mais là, en Jésus, tout est là. Comprenez? Il est le summum de la révélation de Dieu. Il est la révélation de Dieu. C'est comme si avant, il y avait une représentation, quelque chose qui en donnait une portion, et maintenant, en Jésus, on n'a pas besoin de regarder ailleurs. En lui, on a tout ce qu'il faut. En Jésus, on a la lumière véritable qui était attendue et qui devait venir, et qui, justement, est en train de communiquer d'une façon la plus parfaite possible la personne de Dieu, qui est vraiment Dieu. Et ça dit aussi que cette lumière-là éclaire tout être humain. Elle était déjà dans le monde. Elle a fait ou créé le monde. Elle n'a pas été connue par le monde. La lumière est venue chez les siens, comme on a vu au début, sa propre maison. Elle n'a pas été reçue par les siens, par sa propre maison, qui sont la nation d'Israël. Par contre, la lumière, elle donne le droit ou le privilège à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, comme dit Jean, de devenir enfants de Dieu au verset 12. Cette lumière-là est la parole de Dieu qui a été faite chair, qui a habité parmi les hommes, pleine de grâce, de vérité et de gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu ou venu du Père. Et encore ici, c'est vraiment intéressant. Tenant compte que Jean écrit à des Juifs qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, et le mot qui est là pour « habiter », on pourrait le changer pour « elle a tabernaqué parmi nous » ou « parmi les hommes ». Le tabernacle, c'était ce que Moïse avait demandé par l'intervention de Dieu de faire cette tente, cet endroit où là, Dieu allait rencontrer son peuple. La présence de Dieu allait aussi être manifestée à travers cet endroit où là, le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint même et puis pouvoir offrir à Dieu les sacrifices que lui seul pouvait entrer dans cet endroit-là. Et Moïse aussi pouvait aller rencontrer Dieu dans ce tabernacle. Alors ici, c'est comme si la lumière est venue résider parmi les hommes. Pas juste en représentation, mais en totalité. À travers Jésus, dans la personne de Jésus, Dieu est venu rencontrer les hommes. Et il est venu habiter parmi nous. Et là, cette lumière-là était pleine de grâce, de vérité et de gloire. Il y avait tout en Jésus. Il n'y avait rien qui manquait. C'est assez exceptionnel. Elle est venue après Jean-Baptiste, comme on a vu, mais elle existait avant lui au verset 15. Elle communique la plénitude, la grâce et la vérité au verset 16. Et finalement, elle s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ, le Dieu unique qui est dans le sein du Père. Et ici, l'expression même dans le sein du Père, c'est pour exprimer l'intimité absolue que Jésus avait avec son Père. Alors, c'était dans cette intimité qu'il avait avec lui. Et c'est représenté ici. Vous savez, aujourd'hui, on veut célébrer la grandeur de Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître dans ce monde. Et il s'est fait connaître aussi en tant que lumière qui nous éclaire, qui éclaire tout être humain. Et en venant dans le monde, Jésus nous permet, à travers lui, de voir qui est Dieu et de pouvoir venir justement dans la présence de Dieu et de pouvoir le contempler. Et ce matin, par le jeûne et la prière, c'est aussi une invitation où on peut venir rencontrer Jésus.
celui qui est la lumière, celui qui peut nous éclairer. Cette lumière qui est venue dans le monde et qui malheureusement a été rejetée, mais qui heureusement, parce qu'elle a été rejetée et qui était crucifiée même à la croix, nous permet maintenant à nous d'avoir accès à Dieu, qui est la lumière suprême. À travers Jésus, on peut s'approcher de Dieu. À travers lui, on peut lui faire connaître nos besoins, qui on est. On peut lui demander de venir à notre aide, à notre rescousse. Et c'est ce que ce matin, on veut prendre comme occasion. Et pour aller avec le message et aussi le thème du jeûne et de prière, j'ai ici avec moi un petit texte biblique qui est aussi par l'apôtre Jean, mais qui se trouve dans une autre lettre qu'il a écrite, qui est l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 5, versets 6 et 10, on lit ceci. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. » Et vous allez voir dans la suite de l'Évangile de Jean, Jean aussi va justement faire référence à Jésus comme étant l'agneau de Dieu. « Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et là, ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre est d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nos prières sont rassemblées dans des coupes d'or. Et ce matin, on veut justement offrir à Dieu nos prières, offrir à Dieu des requêtes, offrir à Dieu des louanges qui expriment, dans le fond, l'amour que l'on a pour lui et le désir que l'on a d'être en communion avec lui. Si ce matin, Jésus était ici, en chair et en os, OK? Et qu'il vous demandait personnellement à chacun de vous, en nommant votre nom, quel est ton souhait? As-tu un souhait? Quelque chose que tu désires là, fort, 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 profondément, que si ça se réaliserait, là, tu serais la personne la plus heureuse au monde. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je vous demande pas de me le dire, là. Réfléchissez un petit peu. Prenez du temps pour interagir avec Jésus dans votre cœur, dans votre pensée. Si vraiment j'avais la possibilité, là, là, Jésus est en chair et en os devant moi. Puis là, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, « Benoît, c'est quoi ton souhait? » Je sais qu'il le sait déjà d'avance. Hein? Tu comprends ça, là. Mais il me demande de l'exprimer. Il me demande de lui dire, de le dire à haute voix. Un peu comme quand il a dit celui qui était paralytique, qui était à côté de la piscine, et puis qui disait, « Veux-tu être guéri? » Pensez-vous que c'était son choix, son souhait le plus cher à cet homme-là? Absolument. Hein? Il était là, il attendait, il espérait que peut-être ça arriverait. Et Jésus ne lui a pas demandé « c'est quoi ton souhait? » mais lui a juste, le connaissant, lui a dit « veux-tu être guéri? Aimerais-tu ça être guéri? » Qu'est-ce que vous répondriez au Seigneur si vous posez cette question-là? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle est la chose qui te rendrait le plus heureux présentement? Le connaissez-vous? Avez-vous une idée de qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Levez la main si vous avez une idée. OK. Alors, il y en a que c'est pas sûr? Ce matin, on va prendre un temps pour terminer ensemble, un temps pour parler au Seigneur individuellement dans notre cœur, mais un temps aussi où j'aimerais ça donner la possibilité à chacun de vous de venir apporter ce souhait-là, cette requête, ce désir fort sur votre cœur de donner au Seigneur, de dire, « Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses telle chose pour moi. J'aimerais ça te le demander. Que si tu me le demandais, Seigneur, c'est ça que je te dirais. » C'est ça la prière, dans le fond. Hein? C'est l'occasion où on peut exprimer à Dieu. Et pour vous aider avec ça, bien, j'ai une belle coupe en or. Au moins 22 carats. Je me suis amusé à faire. Et là, j'ai demandé aux placiers, aux préposés, même ceux qui étaient préposés à la table, de venir. J'ai ici des petites feuilles. Alors, préposez, s'il vous plaît. Venez en grand nombre. On va distribuer ça le plus rapidement possible. Alors, vous allez voir, on a fait de la récupération. C'était des invitations qui avaient été faites pour une activité. Alors, prenez une feuille. Là, elle est écrite d'un côté, mais c'est le côté blanc que j'aimerais que vous puissiez prendre. Alors, tenant compte que Jésus est la lumière et que lui, il nous connaît. Il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs, il connaît les désirs de nos cœurs. Et il sait même parfois qu'on ne sait pas quoi demander. Si ce matin, vous ne pouvez pas rien écrire sur cette feuille, vous ne pouvez pas écrire votre souhait. J'espère que vous avez un crayon, vous allez voir quelqu'un qui va vous pouvoir vous passer un crayon. Ben, je vous dirais, c'est correct, c'est pas grave. Dites à Jésus, ben Seigneur, je te donne ma feuille, puis c'est un peu comme un contrat en blanc. Remplis-la la feuille, Seigneur. Toi, tu connais mon cœur, tu sais de quoi j'ai besoin. J'aimerais ça, Seigneur, ce matin, venir par contre et t'apporter mon cœur. Même si je ne sais pas quoi écrire sur la feuille, mais j'aimerais ça, Seigneur, quand même, t'apporter ma feuille, la déposer dans cette coupe d'or qui est symbolique ici, mais vous comprenez qu'il y en a une dans l'éternité et que le Seigneur recueille nos prières. Chacune de nos prières qui sont apportées dans sa volonté, il les recueille. Elles ne sont jamais perdues. Le Seigneur les a dans sa présence. Et ce matin, bien, on va être invité pendant un chant. Alors, Joël, avec son équipe, va faire un chant. Et lorsqu'on va avoir l'occasion de venir, naturellement, on ne lira pas les requêtes. Alors, le but, ce n'est pas de les faire connaître ou même que nous, on les lise une après l'autre. Si vous voulez, soyez, autrement dit, ça peut être confidentiel, là. Vous n'êtes même pas obligé d'écrire votre nom. Mais c'est l'occasion d'exprimer, par contre, d'une façon tangible à Dieu, cette requête qui serait sur notre cœur. De dire, Seigneur, j'ai un souhait. J'aimerais tellement ça. Est-ce que je peux te l'apporter ce matin? Et voici, Seigneur, je le dépose dans cette coupe en or. Et je sais que dans ton ciel, cette requête-là, elle est là aussi. Et j'aimerais ça te l'apporter.